Une grande foule et l'esprit de qui discutait avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourut pour les saluer. Il leur demanda : De quoi discutez-vous avec eux ? Quelqu'un dans la foule répondit : Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit impur. L'esprit s'empare de lui n'importe où et il le jette à terre. Et l'enfant écume, grince les dents et le vent et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser. Ils n'ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit : Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous ? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter ? Amenez-le-moi. Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci tomba par terre, s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père : Depuis combien d'temps cela lui arrive-t-il ? Il dit : Depuis son enfance. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Jésus lui dit : Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur, esprit sous-remué : Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Avec des cris et des violentes convulsions, l'esprit sortit, l'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient : Il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : Et nous, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Il leur disait : Ces gens d'esprit ne peuvent faire sortir que la prière. Parole du Seigneur. Nous sommes à la fin d'une semaine riche d'enseignements sur la prière, mais aussi des moments importants de prière que nous avons tous passés tout au long de la semaine, et cela deux fois, le matin et le soir. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là. Ce sont des moments importants de se tenir dans la présence de Dieu, d'invoquer son nom, mais aussi d'entendre prier, c'est quoi. Ce matin, le thème de notre méditation pour clôturer cette semaine, c'est la prière avec foi, la clé pour expérimenter la puissance de Dieu en temps difficile. Priez avec foi. Il y a deux éléments là. Il y a quoi? Il y a la prière, mais il y a aussi la foi. C'est ça. Ce sont ces deux éléments qui vont marquer notre méditation de ce matin. C'est la clé pour expérimenter la puissance de Dieu en temps difficile. Je voudrais introduire et je mettrai en deuxième lieu une relation entre Marc chapitre 9, verset 14 à 29, mais aussi Matthieu chapitre 17 que nous avons lu. Et puis je terminerai en montrant ce qui nous est demandé de faire. Priez. Nous prions tous, n'est-ce pas? Et cela dans plusieurs circonstances de notre vie. La prière, pour ceux-là qui ont l'habitude de prier, procure beaucoup de joie. Quand on se met à genoux pour prier, quand on prend le temps de prière, pour ceux-là qui sont habitués à prier, ils sortent de là, vraiment réjouissants. Au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils ont la force, ils ont rencontré le Seigneur. Alléluia. Quand je prie assez, je dois les sentir. Je dois aussi les constater dans les moindres faits de la journée ou du temps que je suis en train de passer. Et quand je ne prie pas assez, là aussi on ne se trompe pas. On perd les frères de ne pas entretenir une vie de prière. Cependant, pour certains d'entre nous, la prière, même si nous en parlons, a eu engendré des frustrations. N'est-ce pas? Vous avez des sujets de prière pour lesquels vous avez prié, vous n'avez pas reçu de réponse. Vous êtes content? Vous êtes comment? Frustré. La prière a engendré pour certaines personnes des frustrations. Et il n'y a rien de plus frustrant que de prier, s'attendre à recevoir la réponse de la part de Dieu, et cela ne vient pas. N'est-ce pas? Surtout lorsque on a prié et on a attendu longtemps. Ça, c'est une frustration. Mais la plus terrible des choses, bien-aimés, dans la vie des prières, c'est prier Dieu et lui fixer un délai. Lui dire, Seigneur, je suis au début de l'année. Si le 31 décembre, ce que je te demande n'arrive pas, ou Daniel, Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas à notre service. Dieu n'agit pas selon nos schémas. Il agit à son temps, n'est-ce pas? Et pour sa gloire. Beaucoup de gens vivent des situations de frustration qu'ils ont créées eux-mêmes. Parce qu'ils s'imaginent que l'horloge de Dieu est aussi pressée que leur propre horloge. Non, non. Vous voyez l'horloge? À un moment donné, il sera 10h. Et ce qu'on a prévu à 10h, on doit commencer à le faire. À un moment donné, il sera 20h. Ou non, 17h, 18h, les gens commencent à rentrer à la maison. On voit toujours ces mouvements-là. Le matin, les gens partent. Le soir, comme si on leur a dit de rentrer, ils font quoi? Ils rentrent. Il y a un mouvement que connaît notre vie. C'est comme ça que Dieu a réglementé notre vie. Alors Dieu a un agenda pour chacun de nous. Alléluia. Il a un plan. Et ce plan-là, il est merveilleux. Ce plan-là est merveilleux. Quand l'année se termine, sans que ce que nous avons attendu arrive, on est frustré. Alors on se pose la question. Pourquoi Dieu n'a pas répondu? C'est ça. Ai-je mal prié? Deuxième question. Troisième question. Que faudra-t-il désormais faire pour qu'il réponde? Ces questions-là, nous ne sommes pas les premiers à nous les poser et nous ne serons pas les derniers à nous les poser. Ce sont ces questions que nous avons trouvées dans les textes que nous avons lus. N'est-ce pas? Les disciples étaient frustrés. Dans les textes bibliques que nous venons de lire ce matin, il y a deux cas de figure. Dans Marc chapitre 9, versets 14 à 21, Jésus surprend les gens en train de discuter. Il leur pose la question, de quoi discutez-vous? Alors un homme de la foule dit, j'ai amené mon enfant. Cet enfant est en prise d'un esprit qui le rend muet. Et comme tout parent le ferait à sa place, il était désemparé. Il était désespéré. Mais il prend quand même l'initiative d'amener l'enfant. Et ce jour-là, il ne trouve pas Jésus. Je ne sais pas si c'est chez Jésus, mais en tout cas, il a trouvé les disciples. Après avoir reçu un échec cuisant parce que les disciples n'ont pas réussi à chasser les démons, alors il va se tourner vers Jésus. Malheureusement, les textes que nous avons lus nous montrent qu'il se tourne vers Jésus, mais il semble qu'il n'a pas la foi. Si vous lisez le verset 23, il dit Jésus, verset 22, il dit ceci. Verset 22. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Est-ce qu'il est sûr que Jésus peut quelque chose? Non. Il dit si tu peux. Kama o naweza pima. Nao fanyi nini? Nao yo pima. Il vient sans la foi. Mais il demande quand même à Jésus d'essayer s'il peut quelque chose, qu'il ait pitié de lui. Voilà les risques. Il y a un risque de prier sans la moindre foi que Dieu répondrait. On prie parce que tout le monde fait ça. Ou alors on prie, on se procure une foi, on a une foi par procuration. Jamais pourquoi me poser la question, qu'est-ce que signifie la foi par procuration? Si vous lisez les Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16, la Bible nous parle des fils de Séva qui avaient prié pour quelqu'un qui était possédé de mauvais esprits. Et ils ont dit ceci dans leur prière. Au nom de Jésus que Paul prêche. Nous te demandons, toi démon, de faire quoi? De sortir. Le démon n'est pas sorti. Le démon a dit, Jésus, je le connais. Et Paul dont vous parlez, je le connais. Mais vous, je ne vous connais pas. Ils sont partis, ils ont été pris en charge par les démons, au point qu'ils sont partis, presque nuls. Il faut lire ce passage. Parce qu'ils avaient la foi par procuration. Il y a des gens qui ont essayé de chasser les démons parce qu'ils ont vu un frère les chasser. Ou un évangéliste les chasser. Ils disent, bon, moi aussi, je vais dire, au nom de Jésus, ce démon doit sortir. Ce démon-là va s'occuper de toi. Parce que tu n'as pas la foi. Tu as la foi par procuration. On trouve des gens qui prient mais qui n'ont plus la foi. On pourrait même pas penser, est-ce que les Congolais ont encore la foi, même quand ils prient pour le pays? Seigneur, agis. Sauve notre pays. Délivre-nous de ces démons qui sont dans le gouvernement. En même temps qu'on prie, on a quand même un peu de doute. Mais comment Dieu va le faire? À ce moment-là, Dieu agira comme il n'agira pas. N'agira pas. Il y a des situations qui nous déroutent, des situations qui ont fait tache d'huile dans nos vies, qui se sont installées dans nos vies et qui semblent ne pas bouger d'un pouce. Alors on prie, parfois sans la moindre foi. C'est dans cette situation que se trouvent les parents de cet enfant, terriblement désemparés par la situation de son fils qui a duré depuis l'enfance. Il dit, si tu peux quelque chose. Il était frustré. Il avait espéré que les disciples feraient quelque chose, ils n'ont pas pu. Il ose quand même s'adresser à Jésus. Mais Jésus lui dit, verset 23, si tu peux, tout est possible pour qui? Pour celui qui croit. La réponse que Jésus donne ici est une réponse qui réoriente sa manière de percevoir sa situation. Le fait n'est pas si Jésus peut encore quelque chose, ou si Dieu peut encore faire quelque chose, mais on lui dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Voilà pourquoi il dit, je crois Seigneur, viens au secours. Dans la version du second,
vient au secours de mon incrédulité. Mais dans la version, le Seigneur vient au secours de mon manque de foi. En le lisant, il avoue son incrédulité ou son manque de foi. Et il montre qu'il a besoin d'un secours de la part du Seigneur pour enfin croire, pour voir l'éclat de la puissance de Dieu dans son histoire. Alléluia. Il peut arriver qu'on commence à manquer la foi. Il y a des frères et sœurs ici qui n'ont plus la foi. Parce qu'ils ont prié assez longtemps. Ils continuent à prier. Mais rien ne se passe. Mettons-nous à la suite de cet homme qui a dit, je crois Seigneur, viens au secours de quoi? De mon incrédulité. Je donnerai l'occasion à la fin de ce message pour que tu puisses te mettre debout. Pour que le Seigneur mette en toi un brin de foi. Juste quelque chose. Pour que tu crois quand même que Dieu peut encore faire quelque chose. Alléluia. C'est lorsqu'il a dit ça, si vous avez très bien lu le passage, que Jésus se tourne vers son enfant. C'est immédiatement après qu'il ait dit, viens Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, que Jésus se tourne vers l'enfant, parce que son père a franchi le pas de la foi. Alléluia. Alors il commanda sévèrement à l'esprit impur qui poussa un grand cri et sortit de l'enfant en le conduisant dans des convulsions violentes. Jésus lui dit, sors et ne reviens plus jamais. Le miracle s'accomplit. Lorsque le père a pris le risque d'accompagner sa prière par la foi. Deuxième cas de figure. Maintenant, les disciples. Les disciples posent la question à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus répond, ces gens d'esprit, ces types d'esprit, ces esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Dans certaines versions, on dit, par la prière et le jeûne. Alléluia. Donc, il faut monter à un certain moment d'une certaine dimension dans la prière. Il faut cesser d'être ce chrétien-là qui demande de prier pour moi. Prie d'abord pour qui? Pour toi-même. Prends le temps de prier. Prends le temps de te mettre à l'écart pour dire j'ai prié. Maintenant, je prends une discipline dans la prière, mais aussi dans les jeûnes. Jésus l'a dit à ses disciples. La question qu'on peut se poser, est-ce que les disciples n'avaient pas prié ce matin-là? Ils ne sont pas d'avoir prié le matin. Ils ont certainement manqué d'entretenir une vie d'intimité dans la prière, de cultiver certainement la vie des prières. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez constater que la vie de Jésus était inondée des moments où il se mettait à l'écart régulièrement pour prier. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Il aurait pu ne pas prier. Mais il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il prie, qu'il entretienne cette intimité avec le Père pour qu'il découvre comment le Père veut l'utiliser et comment il va avoir la force pour tenir et aller de l'avant. Dans l'autre passage de Matthieu, chapitre 17, versets 19 à 20, l'impuissance des disciples a opéré. Nous avons lu ce passage, la sœur Lucie a lu ce passage. L'impuissance des disciples a opéré les miracles se situe dans l'incrédulité, le manque de foi. Dans certaines versions, on dit la pauvreté de votre foi. Jésus fait remarquer dans ce passage que si l'on a la foi, même petite, comme un grain de sénévé, on serait à mesure, les disciples seraient à mesure de commander à une montagne et la montagne se déplacerait. J'ai dit au cours de la semaine qu'il n'était pas question de réarrangement géographique des montagnes, non. il était question qu'ils comprennent que même des situations impossibles à vue humaine, Dieu peut opérer. Alléluia. Dieu peut encore opérer. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer pour la situation de la RDC. Dieu opère à sa manière. D'ailleurs, le fait que nous avons survécu continue à montrer que Dieu n'a point cessé de faire quoi? D'opérer. Il y a eu tant de stratégies. Mais nous sommes toujours là, debout et vivants. Et il opérera davantage. Mais est-ce que nous avons la foi? Donc la foi, si petite soit-elle, comme un grain de sémène, les choses vont se réaliser. La foi, pourquoi? Parce que alors que l'incrédulité voit les impossibilités, Jésus en appelle à la foi qui voit les choses possibles. Même là, à vue humaine, elles ne sont plus possibles. Tout est possible pour qui? Pour celui qui croit. Celui qui croit doit fonder sa foi sur les ressources possibles dont Dieu dispose en tout temps. C'est cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes, c'est-à-dire opérer les miracles. Bien-aimé, ce n'est pas la grandeur de la foi qui compte, mais la foi fondée sur la puissance de Dieu. Cette foi seule peut accomplir des actes miraculeux. Il n'est pas question d'un assentiment intellectuel pour dire, bon, peut-être qu'il peut le faire. Il est plutôt question d'une dépendance totale à Dieu qui peut et qui peut tout. Alléluia. Alors, en prenant les deux passages, Matthieu 17 et Marc 9, l'un parle de la prière et le jeûne. L'autre parle de la foi qui peut transporter ou transporter les montagnes. Est-ce que Jésus, pourquoi Jésus met un lien entre les deux, la prière et la foi? Pourquoi? Bien aimé, la foi et la prière sont deux maillons de la chaîne, inséparables. Si nous voulons continuer à prier, prions avec foi. Mais aussi, ayons la foi, mais tout en faisant quoi? Tout en priant. La prière sans la foi ne peut obtenir le miracle. Et la foi sans la prière ne peut pas non plus opérer. Ça, nous devons le comprendre. L'efficacité de notre foi dépend de la prière que nous exprimons devant Dieu. Voilà pourquoi il faut toucher à cette clé. Il y a des familles qui ne prient pas. Il y a des personnes qui ne prient pas. Ils prient occasionnellement. Ils prient quand les choses marchent très mal. Parce qu'ils croient en Dieu, bouche-trou. Quand les trous sont là, il faut qu'ils viennent et qu'ils fassent quoi? Qu'ils les bouchent. Non. L'efficacité de notre foi dépendra de la prière qu'il exprime. Et l'efficacité de notre prière va aussi dépendre de la foi qui soutient cette prière-là. Alors, qui donc opère le miracle? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la prière? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Qui opère? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait éclater sa puissance. C'est Dieu qui fait éclater sa gloire. Lorsque moi, j'ai pris avec foi. Alléluia. Lorsque j'ai la foi et je l'exprime par la prière, je donne l'occasion à Dieu d'agir. Mais lorsque je prie aussi en mettant la foi, en laissant ma prière être soutenue par ma foi, en ce moment-là, je donne au Seigneur l'occasion d'opérer. Dans une semaine de prière, on nous avait parlé d'un homme qui avait beaucoup prié, vous vous rappelez, je crois, il y a 2 ans, qui avait beaucoup prié pour que le Seigneur intervienne dans son ministère et qu'il atteste visiblement que celui qui l'a envoyé pour pouvoir le servir, il a longuement prié. Il a longuement attendu que le Seigneur opère. À un jour, semble-t-il, Dieu lui avait répondu, prépare-toi une expérience qui va se faire et qui va donner du poids à ton ministère dans cette ville. À un jour, un homme est mort. On devait aller à l'enterrement. Lui aussi était là. Les gens étaient en train de pleurer pendant qu'ils allaient à l'enterrement. Lui aussi était là. Et le Seigneur, ce jour-là, l'Esprit lui a dit, voici l'occasion où je vais opérer dans ton ministère. Voici l'occasion. Demande seulement au convoi funèbre de s'arrêter. Toi, tu pries. Et ce mort ici va ressusciter. Si c'est vous allez le faire. L'Esprit a continué à le déranger. Fais-le. Voici l'occasion pour laquelle tu as beaucoup prié. Il a hésité. L'Esprit a continué à lui dire, fais-le, c'est l'occasion. Tu as demandé que je donne une occasion, ton ministère va être visiblement manifeste, que c'est moi qui t'ai envoyé dans cette ville. Il n'a pas fait. Il avait la foi en Dieu. Il avait prié. Il avait prié. Mais il a manqué quoi? Il a manqué la foi. Dieu a-t-il opéré? L'homme là n'est pas ressuscité. Parce qu'il a hésité. Il a hésité. Quelle occasion manquée? Quelle opportunité qu'il aurait pu donner à Dieu pour opérer? C'est vrai qu'il y a eu des frères qui ont déjà prié pour les morts, ils n'ont pas été envoyés par Dieu et on les a chassés. On a prié un fouet, on les a tous fait partir. Mais lui, c'était une promesse. Dieu lui a dit, voici les jours. Ce jour est arrivé, fais-le. Il n'a pas fait. Il a manqué l'opportunité. Si vous vivez une vie de prière, vous trouverez régulièrement des moments comme ça où Dieu t'a dit, fais-le. Fais-le. Tu dis, ah, ça c'est quand même n'a pas de haïr. Fais-le. Moi aussi j'ai raté une occasion comme ça. En 2016, quand j'étais en Allemagne, j'étais logé dans une famille d'une femme où il y avait un chien. Il n'y avait pas d'enfant. Donc j'ai posé la question, mais pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a qu'un chien ici? Tu es marié depuis combien de temps? 11 ans. Je dis, ah, tu n'as pas d'enfant et puis je n'en ai pas. Comment ça s'est passé? Je suis pasteur, j'ai prié pendant 11 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Donc je m'entretenais souvent avec elle. Un jour, un verset m'est venu dans la tête du livre des rois où le prophète est arrivé dans la maison de la Tsunamite. Il lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Alors, c'est comme si Jésus me disait, dis-lui que l'année prochaine, il aura un enfant. J'ai dit, ah, d'abord c'est une blanche, est-ce qu'elle va y croire? J'ai raté l'occasion. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais terminer en lisant deux versets. Luc 18, versets 6 à 8. Et Hébreux 10 plutôt, verset 36. Luc 18, versets 6 à 8. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit les juges sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il le fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il quoi? la foi sur la terre. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La Bible dit, il est écrit que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est une question qui t'est posée. Lorsque le Seigneur veut agir, trouvera-t-il la foi en qui? En toi, bien-aimé. Hébreux, chapitre 10. C'est l'endurance en effet que vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir quoi? La réalisation de la promesse. Car encore si peu de temps, et celui qui vient sera là, il ne tardera pas. Mon juste vivra pas par la foi. Mais s'il fait défection, mon âme fait quoi? Mon âme ne trouve plus de satisfaction à lui. 39. Nous ne sommes pas hommes à faire défection pour notre perte, mais hommes de foi pour le salut de nos âmes. Si tu fais défection, si tu t'y abandonnes à mi-chemin, la Bible dit, il est écrit, mon âme se retire, parce qu'il ne prend pas plaisir à ceux qui abandonnent à mi-chemin. Je voudrais prier, mais je voudrais demander à ces bien-aimés qui ont prié depuis longtemps et qui sont découragés, désespérés, et qui ont besoin d'un coup de pouce du Seigneur qui augmente un tout petit peu leur foi, mais ils vont confesser leur incrédulité devant Dieu. Vous pouvez obtenir de vous et nous allons prier avec vous. Si vraiment vous avez prié, vous êtes fatigué, vous êtes presque désespéré, découragé, il n'y a plus de foi, vous êtes en train de tenter d'abandonner même ce sujet-là, vous dites non, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Vous voulez que le Seigneur vienne à votre secours. Comme le Père l'a dit, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Accorde-moi un tout petit peu, un peu de foi, pour que je puisse tenir face à ce à quoi je suis confronté. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi en toi? Allez-y. Je te rassure, bien-aimé, que le problème n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est toi-même. Que le Seigneur t'accorde la grâce de remettre ta foi en lui. Et continuer à croire que Dieu a un plan merveilleux sur toi. Il agira à son temps. Et en ce temps qu'il le glorifie, il a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de réorienter ta vie. Il a le pouvoir de faire les choses à vue humaine impossibles. Il peut les rendre possibles. Je te demande de demander pardon au Seigneur à cause de ton manque de foi, à cause de la pauvreté de ta foi, à cause de ton incrédulité. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'étais en train d'abandonner. Je suis là. Je suis désespéré. Je suis désemparé. J'ai perdu espoir, Seigneur, mais je crois que tu peux encore faire quelque chose. Accorde-moi de faire un pas de plus, de franchir le pas de la foi, pour que je puisse te laisser agir dans ma vie. Mais de continuer aussi à prier le Seigneur, de monter les dimensions, pourquoi pas d'apprendre un programme de prière, des jeunes de prière au cours de cette année, pour que le Seigneur t'accorde la grâce, parce que tu allies, tu mets ensemble la foi et la prière et la foi, et le Seigneur fera le reste. Prie, mon bien-aimé, et moi je prie avec toi. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as laissé comme devoir de prier. Tu aurais pu faire des choses dans nos vies. Tu aurais pu accomplir des miracles dans l'histoire de ton Église, dans l'histoire des familles que nous représentons. Mais tu nous invites, Seigneur, à vivre une vie de prière, à être des hommes et des femmes de foi, à être des hommes et des femmes qui non seulement prie, mais aussi on la foi. Oh Dieu, que tu as le pouvoir d'agir, parce que tout est possible. Dis ta parole pour celui qui croit. Nous prions, Seigneur, que tu aies nos bien-aimés, nos frères, nos sœurs, ces garçons, ces filles, ces mamans et ces papas, chacun par rapport à sa situation. Tu connais ce qu'il agit, Seigneur. Tu connais les situations qu'il n'a cessé de présenter devant toi. Tu connais le niveau de frustration qu'il ressent dans son cœur. Tu connais à quel niveau il ou elle est désemparé, désespéré presque, presque au bout du rouleau, incapable de tenir et de continuer à croire, oh Dieu, que tu peux encore agir. Manifeste-toi, Seigneur, au-dedans de notre soeur et notre frère, enflamme en lui un nouveau désir, un nouvel élan, de continuer à croire, de franchir le pas de la foi, pour te laisser agir, oh Dieu, parce que ton pouvoir est toujours disponible, ta puissance est toujours en œuvre, et tu veux la mettre en exercice pour cela, qui non seulement prie, mais aussi ont la foi, que tu n'as pas encore prononcé bénédiction sur eux. Nous prions, Seigneur, que tu leur accordes la grâce d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter l'éclat de la gloire de Dieu qui agit dans leur vie. En ton temps, Seigneur, selon les circonstances que toi seul tu as alignées, toi qui as un plan merveilleux sur eux tous, nous prions, Seigneur, que tu agiras. Tu es un Dieu qui répond à la prière. Réponds, Seigneur, réponds, agis. Agis dans les familles, on a prié depuis 2 ans. Agis dans les couples, on a prié depuis 3 ans. Agis dans les familles, on a prié depuis plus de 5 ans. Agis dans ces familles où, Seigneur, on s'attend à toi, mais rien ne s'est produit. Nous croyons que tu agis, Seigneur. Tu agis pour la gloire de ton nom. Continue à agir, Seigneur, et manifeste-toi. Et permets à ces bien-aimés de venir ici un jour rendre gloire de ce que tu auras accompli dans leur histoire, même pour des sujets qu'ils auront déjà abandonnés. D'abord, c'est pris au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse cette parole dans notre vie. Amen. Nous allons offrir à notre Seigneur. J'invite l'encomme et les liens qui sont les serviteurs.